20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Avec elle, le concert peut devenir une véritable expérience musicale et sensorielle. Simone Menezes aime associer la musique à l'image ou au mouvement, comme elle le fera les 27 et 28 janvier à la tête de l'Orchestre de Chambre de Paris à la Philharmonie, dans le cadre d'un concert dont le public pourra profiter en déambulant. La chef brésilienne nous en dira quelques mots ce soir. Elle reviendra également sur son récent projet Amazonia autour de l'œuvre de Villa-Lobos, puisqu'elle sera tout à l'heure à notre micro. Le temps de notre petit panorama de l'actualité musicale. Jonas Kaufmann a été décoré des insignes de la Légion d'honneur, une récompense qu'il a reçue vendredi des mains de l'ambassadeur de France en Autriche. Dans son discours de remerciement, le ténor allemand a rappelé l'importance de la culture en tant que force unificatrice et langue internationale. Puissions-nous tous apprécier et reconnaître nos similitudes et célébrer nos différences plutôt que de les mettre en conflit, a-t-il ajouté. Simone Jung remplacera Philippe Jordan cet été pour diriger le Ring de Wagner au Festival de Bayreuth. Elle sera ainsi la première femme à diriger la tétralogie dans le temple wagnérien. Et comme le souligne le site Res Musica, Bayreuth comptera ainsi cet été plus de femmes que d'hommes à la direction, puisque outre Simone Jung, Oksana Liniv et Nathalie Stutzmann seront également dans la fosse pour diriger d'autres productions du festival. Et c'est Lahav Chani qui sera cette semaine à la tête de l'Orchestre de Paris, mercredi et jeudi soir à la Philharmonie. Le chef israélien, actuel directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam et de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, dirigera Mozart et Mahler, le concerto pour clarinette de Mozart avec Martin Freust en soliste et la 6e symphonie de Gustav Mahler, un concert qui sera capté par les micros de Radio Classique. Les pêcheurs de perles de Bizet à l'affiche de l'Opéra de Bordeaux du 20 au 26 janvier. La reprise d'une production créée en 2012 à l'Opéra Comique est déjà donnée sur la scène bordelaise il y a 6 ans. Mise en scène par Yoshi Oida. Yoshi Oida qui souligne ici les références arabes et asiatiques de l'œuvre avec une grande poésie et un style très épuré. Alors c'est Pierre Dumousseau qui sera dans la fosse à la tête de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine avec Louise Ford dans le rôle de Leila, Yona Hoskins dans celui de Nadir et Florian Sempé en Zurga. Florian Sempé que l'on écoute justement ce soir chanter le fameux duo entre Nadir et Zurga aux côtés ici de Cyril Dubois.
Oh,
du Temple Saint, le duo entre Nadir et Zourga, des pêcheurs de perles de Bizet, chanté ici par Cyril Dubois et Florian Sampé dans l'enregistrement d'Alexandre Bloch avec l'Orchestre National de Lille. Florian Sampé qui reprendra donc le rôle de Zourga à l'Opéra de Bordeaux du 20 au 26 janvier dans cette production mise en scène par Yoshi Oida.
L'Or Maison sur Radio Classique.
On connaît et apprécie depuis quelques petites années déjà sa curiosité, son ouverture d'esprit qui la conduisent à créer des programmes artistiques audacieux, mêlant les styles, les époques comme les expressions artistiques. Elle a été distinguée l'année dernière au palmarès des 100 femmes de la culture et ne manque pas de projets pour cette année 2024, à commencer par un concert chorégraphique les 27 et 28 janvier à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Chambre de Paris, la chef d'orchestre Simone Meneses nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre prochain concert à Paris mêlera musique et danse, et on va en parler justement, tandis que pour votre récent programme Amazonia, vous vous êtes associé au photographe Sebastião Salgado, un magnifique programme qui a fait l'objet d'un enregistrement paru cet automne chez Alpha. D'où vous vient, Simone Meneses, cette envie, ce besoin peut-être même de collaborer, de dialoguer avec d'autres expressions artistiques?
Ah, c'est une très bonne question. Je suis convaincue que la musique, elle parle toute seule. Elle a besoin pas d'autres expressions artistiques qui viennent avec elle. Mais quand nous avons un projet qui fait un sens profond pour nous, l'effet d'associer avec l'art visuel nous permettre d'aller plus loin dans la capacité de communiquer ces projets. Parce que c'est vrai qu'il y a une pourcentage de la population qui est visuelle et une pourcentage qui est auditive. Et là, quand on touche un projet qui mélange les deux, on est sûr de toucher tout le monde.
Alors justement, Amazonia, c'est ce projet qui mélange la musique et le visuel. C'est un concert que vous avez donné de très nombreuses fois déjà à travers le monde, avec des photos de Sebastião Salgado. C'est un hommage à la nature amazonienne, une nature que vous connaissez bien puisque vous avez grandi au Brésil.
Absolument. D'abord, cette musique, la forêt amazonienne, c'était une musique qui m'attire depuis que j'étais jeune, parce que je trouve que c'est une masterpiece du répertoire classique, une chef d'œuvre qui n'était pas assez connue comme elle mérite, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle était un peu dans de mauvais états, des manuscrits pendant des années. Parce que aussi, Villa-Lobos est un compositeur brésilien qui n'a pas les mêmes soutien d'un pays qui prend de la culture vraiment au sérieux comme la France ou l'Allemagne. Et donc faire cette musique était un peu une mission. Et faire cette musique avec un artiste comme Sebastião Salgado qui arrive à capturer l'âme de la forêt, c'est quelque chose d'extraordinaire. La forêt, elle représente pour moi pas seulement un patrimoine brésilien, mais un patrimoine universel, tel comme la musique de Villa-Lobos. Et c'était curieux parce que ce projet, c'est un peu cette représentation d'un projet universel, parce qu'il était d'abord une commande de la Philharmonie de Paris, c'était pas une commande brésilienne, c'était la Philharmonie de Paris qui a mis en contact Salgado et moi. Et c'est un projet qu'on a joué dans peut-être plus de 10 pays avant de jouer au Brésil.
Vous avez joué au Brésil.
Mais on a joué au Brésil. Et donc, c'est un projet qui parle de cette 13 heures avec une vision universelle.
Thank you.
Un extrait de la suite Floresta do Amazonas d'Hector Villa-Lobos par le Philharmonia Zurich dirigé par Simone Menezes. Simone Menezes qui est notre invitée ce soir sur Radio Classique. Un extrait de cet enregistrement sorti tout récemment chez Alpha. Enregistrement de ce spectacle que vous avez donc donné à travers le monde et notamment au Brésil. Et on découvre, grâce à ce spectacle, grâce à cet album, une œuvre fascinante, une véritable fresque qui a des accents très épiques, qui est très évocatrice, très visuel, très spirituel aussi. Est-ce que on peut parler d'une forme de spiritualité dans ce rapport de Villa-Lobos avec la nature?
Ah, je pense que oui, parce que quand même la nature elle-même, elle a un aspect spirituel, je pense. Elle parle elle-même jour et nuit, plein de choses. On n'écoute pas. Elle est en train de dire plein de choses à nous. Et Villa-Lobos, il comprenait ça. Il disait que sa musique chantait les rivières, chantait les forêts. C'est vrai que c'est un chant différent. Un peu plus tribal, un peu plus primitiviste, qui, dans certains aspects, fait penser dans la musique de Stravinsky, mais de l'autre, et avec une certaine nostalgie, donc c'est très riche.
Puisqu'il s'inspire à la fois de chants traditionnels amérindiens, et puis on sent l'influence de la musique européenne, celle de Stravinsky, celle de l'impressionnisme aussi, qui l'a beaucoup influencé, Villa-Lobos.
Absolument, il y a cette synthèse des tellement d'éléments qui je trouve intéressant parce que parfois, si on donne cette musique à un critique qui ne connaît pas tous ces éléments qui ont influencé la musique de Villa-Lobos, j'ai entendu déjà des gens qui disent « Oh, ça fait penser à la musique de Fiumi ». Et ben non, c'est juste que quand on ne sait pas tous les éléments, on trouve les seules choses qu'on connaît pour renommer.
Mais si... c'est parce qu'elle est très évocatrice, très visuelle. C'est vrai qu'il y a un côté, ce côté épique qui fait penser au cinéma. Hein.
Absolument. Mais en gros, c'est... Il y a aussi une façon d'écrire au niveau spectre musical qui est très large, qui fait penser aussi à Sibelius ou même à Carmina Burana.
Oui.
Donc, c'est une musique très épique.
C'est un compositeur, Simone Menezes, auquel vous êtes très attachée, dont vous êtes devenue l'une des grandes ambassadrices. Et en même temps, c'est un compositeur que l'on connaît mal en France. Il y a chez vous une forme d'engagement à jouer la musique de Villa-Lobos à travers le monde?
Il y a de plus en plus. On vient... récemment avec une génération de musiciens brésiliens qui prennent place dans de différents pays, dans des endroits importants et qui prennent cette rôle un peu d'ambassadeur de cette compositeur qui a des choses extraordinaires. Et je me rappelle une fois que quelqu'un m'a dit que la musique de Villa-Lobos n'était pas plus joué parce qu'on n'a pas eu des noms forts dans l'histoire de la musique qui ont défendu cette musique, comme par exemple Bernstein a défendu plein de répertoires américains. Une preuve de ça, c'est que la musique de Villa-Lobos qui est plus connue, c'est la Bacchanal numéro 5, qui c'était Bernstein qui a enregistré. Et donc pour ça qu'elle était connue. Donc notre rôle maintenant, c'est de faire le même avec des autres musiques magnifiques.
Voilà, vous allez suppléer à ce que Bernstein aurait pu faire s'il avait été un petit peu plus curieux, mais il était déjà bien, bien curieux et bien ouvert. Ce programme Amazonia, vous l'avez donné dans différents pays à travers le monde, 11 fois je crois. Vous allez le redonner encore? C'est un programme qui est amené à tourner, à vivre à travers d'autres pays.
Oui, pour la saison prochaine, on continue à voyager. On joue la saison prochaine avec l'Orchestre de Francfort, en Allemagne, avec l'Orchestre de Luxembourg, avec l'Orchestre de Barcelone et avec l'Orchestre de la Cité du Mexique. Donc, il voyage encore.
On va écouter un autre extrait de cette œuvre de Villa-Lobos avec une voix chantée, une voix de soprano. Qu'apporte la voix à cette œuvre? Qu'est-ce qu'elle raconte dans cette œuvre, la voix?
Elle apporte la soprano dans deux façons différentes. De temps en temps, elle a une voix, une poésie qui raconte quelque chose. Et de temps en temps, elle a les propres instruments, un propre instrument qui vient s'ajouter à l'orchestre avec une nouvelle coloration.
Terror.
Un nouvel extrait de la suite Floresta do Amazonas de Villa-Lobos avec la soprano Camila Provençal et le Philharmonia Zurich dirigé par Simone Menezes avec qui nous passons un moment ce soir sur Radio Classique. Alors on vous retrouvera les 27 et 28 janvier à la Philharmonie de Paris à la tête de l'Orchestre de Chambre de Paris. C'est un orchestre que vous avez déjà dirigé ?
Non, ça sera les premières rencontres.
Voilà, des débuts importants pour un concert tout à fait original, tout à fait pertinent, comme vous aimez les concevoir. Alors, un concert en hommage à Fauré et même à Péléas et Mélisande, puisqu'il y aura la suite de Fauré et celle de Sibelius, ainsi qu'une création d'Augusta Reed Thomas et puis des transcriptions de mélodies de Fauré, avec la participation du chorégraphe Thierry Etienne Yang. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la conception de ce programme, de ce concert chorégraphique tout à fait original?
Donc la décision, c'était de faire un hommage à Fauré, en mettant en lumière Péléas et Mélisande. Et l'idée de travailler avec Thierry, c'était une idée de faire une construction chorégraphe qui rapporte une rencontre de générations. Donc, à la fin de l'histoire de Péléas et Mélisande, nous avons les deux personnages, les grands-pères et les petits-enfants qui restent et qui racontent un peu de la vie qui continue. Et c'est cette rencontre qui est mise en lumière par rapport à Péléas et Mélisande dans la chorégraphie de Thierry. Et ce qui est extraordinaire dans le travail de Thierry, c'est qu'il est quelqu'un capable de toucher des émotions parmi les gestes et de réussir de faire ça, pas forcément avec des gens professionnels. Et c'est ça qu'il fait dans ses projets. Il fait un travail avec un public ouvert pendant quelques mois pour construire ces deux générations, la génération âgée et la génération jeune qui vient composer un concert où on peut être à chaque instant impressionné par quelque chose qui se passe, une danse qui commence d'un côté ou quelque chose qui se passe de l'autre côté, ou l'orchestre qui joue toute seule avec une nouvelle lumière. Donc c'est cette rencontre des générations dans un contexte inattendu.
Voilà, et avec des artistes amateurs qui vont déambuler au milieu du public. Alors il faut préciser que tous les sièges du parterre de la Philharmonie de Paris seront retirés. Le public pourra écouter allongé par terre, debout, marcher s'il le souhaite, avec autour de lui des artistes amateurs, c'est ça. Exactement. Donc il y a un rapport aussi au corps qui est important. C'est une forme d'expérience sur l'écoute de la musique qui prend en compte le corps. Le public est aussi actif.
Exactement. C'est cette idée de aussi bouleverser la façon que le public écoute la musique, qu'il n'est pas en face de quelque chose, mais qu'il est au milieu de quelque chose qui se passe.
Voilà. Vous avez déjà vécu ce genre d'expérience ?
Non, c'est la première fois. Je suis super contente.
Voilà. Donc, avec l'Orchestre de Chambre de Paris, il y aura une création, une œuvre d'Augusta Reed Thomas intitulée « L'envers des destinées ». Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Simone Menezes ?
Oui. Augusta, c'est une compositrice américaine avec qui on travaille pour cet spectacle. Nous avons donné à elle comme inspiration certains éléments du texte de Péléas et Mélisande. Et elle a fait cette composition à partir de cet texte. Aussi là, on a un élément d'espatialité, que c'est les solistes, les chanteurs et l'harpe qui vont être avec la lumière un peu mis en avance. Et le message du texte parle justement de cette importance de rencontre des générations. Mais les choses plus intéressantes, c'est qu'Augusta, en général, c'est une compositrice avec une musique qui apporte certains éléments de la musique américaine avec une énergie, un rythme très fort. Et c'est la première fois qu'elle a fait une composition, une commande, où, de façon inconsciente, elle apporte un peu plus de couleur française dans cette composition. Une musique un peu plus sensorielle, un peu plus spatialisée, qui nous fait penser beaucoup à un hommage vraiment à Fauré.
Ben voilà, ben ça tombe bien, parce que ce concert est un hommage à Fauré. Rendez-vous donc les 27 et 28 janvier à la Philharmonie de Paris pour ce concert avec l'Orchestre de Chambre de Paris et donc les chorégraphies de Thierry Tion Yang. Alors, c'est vrai que Simone Menezes, vous dirigez aujourd'hui les plus grandes phalanges internationales. Qu'en est-il de votre ensemble K avec lequel on vous a découvert, avec lequel vous avez développé des programmes tout à fait originaux? Vous avez encore beaucoup de projets avec cet ensemble. C'est un petit ensemble orchestral, assez original d'ailleurs, même dans son effectif.
Oui, on a plein de projets avec Ensemble K. Là, on est en pleine création de notre prochaine CD, qui, je vous donne seulement les titres, mais après, certainement, on parlera plus dans quelques mois, mais que ça sera autour de Scheherazade. Et on continue d'autres projets comme Métanoïa, qui c'est les projets qu'on avait enregistrés, fait les films qui a gagné les meilleurs documentaires classiques 2023. Et on continue les trajets des cas.
Oui, c'est vrai qu'avec l'ensemble K, vous développez aussi des programmes qui mêlent les styles, les époques et les arts. On va se quitter justement avec un petit extrait de Métanoïa. Merci infiniment, Simone Meneses, d'avoir passé un moment avec nous. Donc, je rappelle la sortie toute récente de ce programme Amazonia qui associe cette œuvre fascinante de Villa-Lobos avec une œuvre également de Philippe Glass. Et puis, ces rendez-vous des 27 et 28 janvier avec l'Orchestre de Chambre de Paris à la Philharmonie de Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Un extrait de la Messa di Gloria de Puccini par le chœur Sequenza 9-3 et l'ensemble K dirigé par Simone Meneses, un extrait de cet album intitulé Métanoïa. Simone Meneses en concert donc les 27 et 28 janvier à la Philharmonie de Paris, à la tête de l'Orchestre de Chambre de Paris et avec en soliste le baryton Laurent Daoury et le violoncelliste Albert Kuczynski. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du compositeur Max Richter qui nous parlera de sa résidence à la Fondation Louis Vuitton en écho à l'exposition consacrée au peintre américain Mark Rothko. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.